à partir du verset 1, Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Le deuxième événement le plus important de toute l'histoire, voilà ce que certains appellent cet événement que nous venons de lire, la conversion de Saul, de Paul. Deuxième événement le plus important de toute l'histoire, et certainement c'est pas loin de la vérité. Le premier événement le plus important de toute l'histoire, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ensuite, vu ce que cet homme Saul, ensuite l'apôtre Paul, ce que cet homme va devenir, et le rôle qu'il va jouer dans la suite, auteur de 25% du Nouveau Testament, moteur de la mission et du progrès de l'Évangile dans le monde entier, vu l'impact que le christianisme a eu sur le monde, sur encore aujourd'hui, eh bien, effectivement, c'est un événement majeur devant nous ici. Et bien sûr, pour Luc, l'auteur de ce livre, c'est évident qu'il voit la conversion de Paul comme extrêmement important. Vous savez, il le raconte 3 fois dans le livre des Actes, c'est-à-dire sur les 28 chapitres, il dédie 3 chapitres, plus de 10%, pour raconter la conversion de Paul. Une fois pour le raconter comme nous venons de lire, pour raconter la chose, et puis 2 fois pour raconter comment Paul donne son témoignage, comme Bruno a fait ce matin. Et pour Luc, c'est tellement important parce que lui qui veut enseigner, qui veut annoncer l'évangile, eh bien, la conversion de Paul, c'est ça l'évangile, c'est ça être évangélique, c'est ça être touché par le Seigneur. Il faut, pour lui, ça va être, rien que la conversion de Paul, ça va être une preuve incontournable, une preuve imbattable de la puissance de l'évangile. Et on découvre ici qu'effectivement, ce qui est toujours marqué, les chrétiens, les vrais chrétiens, on va dire les évangéliques, ceux qui aiment l'évangile, c'est cette rencontre personnelle, cette rencontre qui chamboule, cette rencontre avec un Christ vivant. Ça, c'est un élément indispensable de la foi chrétienne, un rencontre qui change tout, qui change vraiment la direction de notre vie. une rencontre qui ne passe pas inaperçue. Est-ce que Paul a vécu? Est-ce que nous, chrétiens, nous avons vécu? Alors, on va parler un peu de ça. Juste deux choses ce matin. On va voir que c'est ici, la conversion de Paul est une conversion très, très atypique, très exceptionnelle. Et ensuite, on va voir que c'est une conversion très typique, très ordinaire, très exemplaire. Donc d'abord, une conversion très atypique, ensuite une conversion très typique. On lit ces circonstances de la conversion de Paul, et en effet, assez frappant, assez exceptionnel. À midi, un beau jour, Paul, marchant sur la route qui mène à Damas, il est terrassé par une lumière éblouissante. Et ses compagnons de route sont également jetés par terre. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ça dans le TGV. Sur un air de repos sur l'autoroute à midi, oh là, cela arrivait aux gens. C'est assez fort, assez exceptionnel. Même si quelqu'un me raconte ça, si ça m'est arrivé, je serais peut-être dubiteux même des choses. Cette voix du ciel, la voix même de Christ qui lui parle, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu ?» Et après, « Lève-toi, entre dans la ville. » Je pense que c'est la première et la dernière fois que Christ a parlé directement, audiblement, du ciel, comme ça. Les autres même l'ont entendu. De temps en temps, on entend parler des visions, des rêves, des personnes qui voient Jésus-Christ. Tant mieux si c'est vrai. Curieusement, il n'y a jamais de témoins. Souvent, ça se passe tout seul. Mais ici, tout le monde constate la chose. Tout le monde voit la chose. Et eux-mêmes sont là, même s'ils ne voient personne. Ça, c'est assez exceptionnel quand même, cette lumière, cette voix. Ensuite, Paul est physiquement aveuglé par cette expérience. Il doit être conduit à la main à Damas. Bon, ça ne m'est pas arrivé, moi, quand je me suis converti. Je me suis dit que même s'il voulait mettre sa main sur les chrétiens, maintenant, il va avoir du mal à le faire parce qu'il ne voit rien. Il reste 3 jours sans manger, sans boire. On n'impose pas ça aux nouveaux convertis, quand même. Il attend de la venue d'Ananias, qui lui aussi a une vision du Seigneur, chose exceptionnelle. Ananias va venir, il va imposer ses mains. Et puis, on dit que des écailles, comme des écailles, tombent de ses yeux. Est-ce que ça vous est arrivé quand vous vous êtes converti à Jésus-Christ? Bon, tout cela revêt d'un caractère exceptionnel, fort. De plus, en plus, dès l'instant de sa conversion, Paul, il reçoit un appel clair pour être, on va dire, le grand apôtre vers les nations. C'est ce que Dieu dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Donc, évidemment, la conversion de Paul est, à tout point de vue, une conversion radicale, une conversion sans précédent. On peut penser, je pense que c'est juste, c'est une conversion exceptionnelle parce que Paul va avoir un ministère exceptionnel dans la suite. Donc Dieu, pour vraiment avoir un instrument à sa disposition, un tel instrument, il faut une telle conversion. Et j'ai remarqué souvent ce que Dieu amène à peut-être à beaucoup faire pour lui, à beaucoup souffrir, à beaucoup témoigner pour lui. Il leur donne aussi un témoignage parlant et fort pour les utiliser, parfois pour les humilier, aussi pour les garder, et pour être un témoin vraiment fort et efficace. Donc, une conversion atypique. Mais maintenant, j'aimerais vous dire, c'est surtout ça que nous allons voir ce matin, c'est une conversion ordinaire. Exemplaire, typique, normal, comme toutes les autres. Et il me semble, c'est pour ça, surtout que Luc veut l'inclure dans son livre, pour illustrer l'évangile, comment ça fonctionne, l'évangile. Et Paul même était conscient que sa conversion devait servir d'exemple à d'autres. Il dit ça en 1 Timothée, il dit, moi j'ai reçu grâce, j'ai reçu miséricorde, afin que je serve d'exemple à d'autres. Que Dieu va aussi, Dieu va et peut faire la même chose dans leur vie. Donc son parcours spirituel est tout à fait typique. Souvent, quand on entend les témoignages, la personne commence en disant « Bon, je n'ai pas eu une expérience comme sur le chemin de Damas. » C'est une manière de dire, ce n'était pas si bouleversant. Je comprends ce que la personne veut dire, certainement je l'ai dit aussi, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Un chrétien a eu une expérience comme sur le chemin de Damas. On va voir ça. Tout d'abord, c'est parce que Jésus nous sauve, quand il nous sauve quand nous faisons route contre lui. C'est-à-dire, Paul n'aurait pas commencé son témoignage, s'il devait donner son témoignage en disant, voilà, moi j'ai fait la moitié du chemin vers Dieu, après, il a fait l'autre moitié du chemin, et on s'est rencontrés au milieu, et ça c'est bien mal. Paul n'aurait pas commencé son témoignage en disant, un matin je me suis levé, et je me suis décidé qu'il était temps d'aller vers Dieu, de chercher le Seigneur, de mettre ma vie en règle. Non, quand Dieu l'a sauvé, il l'a sauvé quand Paul allait contre lui. Lorsque Paul se rend à Damas, il ne se dirige pas vers Jésus, vous voyez la chose. Et quand il va à Damas, ce n'est pas qu'il cherche le Seigneur, il cherche à le rencontrer. Au contraire, chaque pas qu'il faisait pour avancer vers cette ville, c'était un pas qui l'enfonçait dans la désobéissance, dans la culpabilité, dans la condamnation. Si Dieu, au lieu d'envoyer une lumière, avait frappé Paul avec le foudre, eh bien, l'Église de Jésus-Christ aurait remercié le Seigneur d'avoir délivré, d'avoir agi en leur faveur. On aurait parlé d'une victoire pour Dieu, une bénédiction pour l'Église, si c'était le foudre et pas la lumière. Et pourtant, vous voyez bien, c'est lorsque Paul est dans cette attitude, dans cette démarche contre Dieu, c'est là. C'est ce jour-là que Dieu va le sauver et le prendre. Alors là, on est obligé de... C'est Paul lui-même qui va dire dans l'Épître aux Romains, « Nul ne cherche Dieu. Hein. » Et voilà, c'est son témoignage. « Nul ne cherche Dieu, lui non plus. » Au groupe de jeunes l'autre soir, c'était encourageant, et les jeunes aussi donnent leur témoignage. Et donc, notre sœur a commencé son témoignage en disant, en français souvent on dit « je me suis converti ». Mais en fait, Dieu m'a converti. Elle a commencé à raconter son témoignage et on est bien d'accord, « je me suis converti », c'est du bon français, c'est à l'usage, mais ce n'est pas vraiment la bonne théologie. Et Paul, Saul, c'est son cas, hein. Dieu est venu nous chercher dans notre égarement, dans notre perversion. C'est pas qu'il attendait qu'on arrive jusqu'à lui pour nous sauver, comme témoigne l'histoire de Paul. Ça, c'est une réalité pour chacun de nous. Je pense, nul ne cherche Dieu, et c'est Dieu qui nous cherche. Nul n'aime Dieu en premier, c'est Dieu qui nous aime en premier, comme ici. Deuxièmement, le problème de Paul, c'était aussi surtout le nôtre, je pense. Le problème de Paul n'est pas tant qu'il aurait appelé ces activités-là, cette route vers Damas, ce qu'il voulait y faire. Lui, il n'aurait pas appelé ça des mauvaises œuvres, des bêtises, des péchés. Il aurait appelé ça, avant de se convertir, il aurait appelé ça des bonnes œuvres. C'est-à-dire, si on lui avait demandé à Saul ce matin-là, est-ce que tu vas à Damas pour faire les 400 coups ou est-ce que tu vas à Damas pour être un bon citoyen, un bon père de famille, un bon paroissien? Il aurait dit, moi je vais à Damas parce que, justement, pour être un bon citoyen, un bon paroissien, un bon père de famille. Est-ce que tu y vas pour faire des bêtises ou pour faire du bien? J'y vais pour faire du bien, moi. Même beaucoup de bien, de manière zélée, c'est pour ça que j'y vais. Si on avait demandé à Paul, mais t'as jamais volé, tué, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, moi, non, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. Le premier verset dit qu'il respirait le menace et le meurtre. Mais je suis sûr qu'il aurait jamais dit, moi, j'ai volé, j'ai tué. Au contraire. Et en fait, plus tard, il va comprendre et il va s'appeler, il va se décrire comme un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Mais quand on regarde ces blasphémateurs, persécuteurs, hommes violents, il était ces choses non pas faute de religion, mais à cause de sa religion. à cause de son zèle, à cause de ce qu'il croyait être ses atouts, son obéissance. C'est-à-dire ce qu'il pensait le rendre agréable auprès de Dieu, auprès de la société, c'est ce qui le rendait misérable et c'est ce qui le corrompait au fond. Quand j'étais au CM2, notre famille habitait au Danemark et j'étais à une école internationale, n'ayant jamais appris le danois, et où on parlait anglais. Et donc, un de mes copains de classe, c'était le fils de l'ambassadeur japonais. Et un jour en classe, c'était un atelier, un peu les arts plastiques, je pense qu'on appelle ça, et on nous a donné à chacun un morceau d'argile. Et les instructions, c'était, bon, on va sculpter aujourd'hui, bon, vous faites une sculpture d'un animal, un oiseau, vous faites une sculpture. Donc moi, j'ai fait un hibou, hein, c'était ce qui ne ressemble pas grand-chose à un hibou, mais bon, à côté, ce garçon, mon ami, lui, il a fait un magnifique avion de chasse. Je ne sais pas si les Japonais peut-être sont très, très bien avec... tout ça, mais j'ai regardé son avion de chasse et mon hibou, eh bien, son avion de chasse volait bien plus haut que mon hibou. 2 minutes avant la fin de la classe, le prof passe dans les rangs et voit, voit ce qu'il a fait. Elle dit, ben, si tu comptes remettre ça à la fin, là, tu vas avoir un zéro parce que c'était pas ça les instructions, c'était faire un animal. Alors, lui était très fier parce que son avion de chasse nous battait tous. Mais quelque part, ce n'était pas les instructions. Alors, il avait un moment d'hésitation, et puis il a pris dans ses mains, il a pris cet avion de chasse, il a écrasé, il a fait une boule, et en 30 secondes, il a pendu un hibou comme le mien, pour rendre au professeur. Mais c'est ce que chacun de nous, c'est ça la conversion, chacun a dû faire ça, c'est ce que Paul a dû faire, il a dû prendre ce qu'il pense être ses atouts, et... Finalement, c'était jamais ça les instructions de Dieu, de réussir à réussir, d'être fort, à être tellement moral et zélé et religieux. Et beaucoup, je pense, à la fin de la classe, quand Dieu passe, ils vont être déçus. Ils pensaient c'est ce que Dieu ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient même fiers de toutes leurs œuvres, de tous leurs efforts, de ce qu'ils ont réussi à faire de la vie, que ce soit dans la religion ou que ce soit dans le côté séculier. Mais... au fond, ces choses qu'ils ont fait, ça les donnait un sentiment de fierté, d'orgueil, un sentiment de supériorité par aux autres. Et ça, finalement, c'est pas ce que Dieu veut. C'est loin de ce que Dieu veut dans notre cœur. Il veut l'humilité, il veut l'amour. Et la conversion, c'est ça, c'est être prêt à prendre tout ça et à l'écraser et à accepter humblement ce que Dieu demande réellement, c'est-à-dire une obéissance sincère à lui. Et Paul, plus tard, il va dire, oui, tout ce que j'avais, tout mon zèle, toutes mes activités, eh bien, je les ai regardées comme de la boue, comme un échec, parce que j'ai enfin compris que ces choses-là, loin de m'améliorer, loin de me rendre une meilleure personne, me rendaient une personne violente, persécuteur, blasphémateur. Et les chrétiens, en fait, c'est ce qu'ils ont surtout compris. Non seulement il y a les mauvaises œuvres et les bêtises que nous avons faites, mais il y a aussi les bonnes choses ou les choses qu'on met en avant. Mais ces choses-là, c'est aussi souvent notre problème parce que c'est ce qui nous permet d'éviter Dieu, de ne pas oublier Dieu. J'aime bien celui qui dit « Les chrétiens sont ceux qui demandent pardon à Dieu non seulement pour leurs mauvaises œuvres, mais pour leurs bonnes œuvres, entre guillemets, dans lesquelles ils se fient. Les chrétiens se repentent non seulement de leur rébellion, mais de leur religion, comme Saul a dû faire. Les chrétiens sont ceux qui ont demandé pardon non seulement pour leur méchanceté, mais aussi pour leur moralité, quand c'est fait dans un but de ne pas avoir besoin de la grâce, de l'humilité. Et ce que Paul a dû faire ce jour-là, lui, il a dû tellement chambouler sa manière de penser en ce qui plaisait à Dieu, ce zèle, qui va l'amener à aller jusqu'à Damas pour mettre ces gens en prison, tout ça, c'était fait. Sa motivation n'était pas de s'enfoncer dans le péché, sa motivation était d'aller plus loin dans la moralité, et c'était justement ça qui le perdait. Mais il s'en est repenti et a été changé, et il suffit de lire ses écrits pour voir à quel point il a compris que oui, c'est pas ça, c'est pas la justice que nous pouvons produire qui plaît à Dieu, c'est la justice que lui il nous donne par Jésus-Christ. Et je pense que toute personne a besoin de passer par là. C'est le côté typique dans cette conversion. C'est ce que Dieu doit changer en nous. Un troisième élément similaire à la conversion de Paul, c'est que tout chrétien est bouleversé, transformé par, on va dire, la lumière de Jésus-Christ. Ici, Paul, s'il y a la lumière, il y a un aveuglement. Je pense que ces choses-là sont aussi thématiques, symboliques dans la Bible pour parler de toute conversion. Si Paul est frappé d'aveuglement ici, c'est pour montrer que finalement il était aveugle, spirituellement aveugle. Et peut-être là, il commence à être physiquement aveugle, mais pour la première fois, il commence à voir spirituellement. Et c'est aussi le cheminement par lequel nous devons passer. Vraiment, une lumière qui ouvre nos yeux, et ça c'est une œuvre divine, ça c'est une intervention divine qui nécessite un miracle. Ce que Paul va expliquer aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, il dit que les incrédules de ce monde, le Dieu de ce monde les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Et puis il dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est d'arriver dans cet aveuglement, ces ténèbres. Et l'œuvre de Dieu, c'est de dire que la lumière soit, tout comme il a fait en Genèse chapitre 1, que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce qu'il fait dans un cœur quand il veut, que la lumière soit et la lumière fut. Et comme Bruno en a témoigné ce matin. Et il le fait au moment voulu par lui. Tout s'illumine dans le cœur, la personne voit pour la première fois ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, il voit Jésus-Christ, il voit sa beauté, il voit son œuvre, il voit. Paul, il donne un mini-témoignage en Galates, et Paul savait donner son témoignage de différentes circonstances, mais parfois, ici en Galates, c'est juste 2-3 versets, mais il dit, lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, il l'a fait. Lorsqu'il plut. Donc Paul reconnaissait que c'était ce moment choisi. Lorsqu'il plut à Dieu de le faire, il l'a fait et c'est fait. Il a compris que Dieu avait mis sa main sur lui. Dieu dit à Ananias, voilà, j'ai choisi cet homme. La lumière entre dans son cœur aujourd'hui et maintenant il va me suivre. C'est sûr que Paul, on imagine qu'il avait déjà eu l'occasion d'entendre le message. On ne le dit pas, donc on n'y insiste pas trop, mais probablement même il a croisé Jésus-Christ. On sait que les hommes juifs montaient au temple au moins 3 fois dans l'année. Jésus enseignait dans le temple. Très probablement, ils se sont croisés. Paul avait certainement connaissance de cet homme, parce qu'à Jérusalem, qui n'a pas entendu de ça? On le sait qu'il était au martyr d'Étienne, donc même certainement ayant vu ce témoignage-là, donc cette doctrine n'était pas totalement inconnue. Il a déjà entendu, tout en le rejetant, mais ce jour-là, plus possible de le rejeter, impossible de le rejeter, parce que la lumière arrive dans son cœur. Et ça, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, le roi qui le fait, parce qu'une telle vision de Christ, de sa gloire, de sa résurrection, de son amour, voilà, ça nous est irrésistible à ce moment-là. Les yeux s'ouvrent, la foi naît, la personne passe des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est ça. Si vous êtes sauvé, je sais, c'est ce qui s'est passé dans votre cœur. On ne peut pas contourner cette œuvre-là. Il a fallu que Dieu le fasse, qu'il envoie sa lumière. Et c'est ainsi que Paul décrit la, la, la conversion. Le moment de conversion, c'est quand Dieu met sa lumière. Et je pense, enfin, pour dire que c'est une conversion tout à fait typique, c'est qu'il y a eu véritablement une conversion, c'est-à-dire une transformation. Paul n'était plus le même. Il a fallu un peu de temps pour que l'Église soit prête à l'accepter, à l'accueillir, mais il était... On pouvait plus, c'était évident. Est-ce que cette personne s'est vraiment convertie? Paul, c'était évident. On voit que immédiatement, il se fait baptiser, il commence à témoigner de sa foi dans la suite, il s'engage dans l'Église. C'est une nouvelle personne, totalement changée, totalement transformée, totalement convertie. Et ça c'est aussi tout ordinaire, normal. Quand la conversion arrive, quand quelqu'un se donne au Seigneur, il y a vraiment une transformation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si Dieu agit dans une vie, il se transforme. Il y a une nouvelle obéissance. Il y a cette différente manière de penser, une repentance. C'est de tels fruits que nous reconnaissons une véritable conversion. Et Paul ne laissait pas de doute à ce sujet, tout comme tout chrétien. Qui a une nouvelle vie, qui marche dans une nouveauté de vie, c'est ce que Dieu nous appelle tous à vivre. Donc, vous voyez une conversion tout à fait ordinaire, celle de Paul. Il faut faire la part des choses entre ce qui est exceptionnel, dramatique, pour la personne de Paul lui-même et le ministère qu'il va avoir dans la suite. Mais Luc veut attirer notre attention surtout sur l'œuvre de Dieu et sa grâce qui peut, à tout moment, qui est toute puissante. Il y a ceux qui parlent de la grâce souveraine. Je trouve que c'est pas mal comme adjectif de la grâce. On a parlé d'un Dieu souverain ce matin. La grâce est là et la grâce, elle est toute puissante quand elle entre dans une vie comme elle a fait dans la vie de Paul. On entend de ces jours des témoignages en vue des personnes qui s'impliquent dans l'Église, qui veulent devenir membres. Voilà, il y a, chaque parcours est différent, comme vous voyez bien. Il y a un côté atypique pour chacun de nous. Mais il existe également le même parcours, un parcours récurrent dans chaque personne qui vient à Christ. C'est parce que il faut passer devant la même croix, il faut recevoir la même grâce, on est transformé de la même nature pécheresse et esclave pour recevoir la même sainteté en partage. Et c'est ça qui est beau. Je termine juste en attirant votre attention sur un homme dont on n'a pas beaucoup parlé, et dans la suite on n'en parlera plus, c'est Ananias. Ananias, son nom veut dire « l'Éternel fait grâce » ou « l'Éternel donne gracieusement ». Et ce que je trouve fort, c'est que le Seigneur lui dit « Ananias, l'Éternel donne gracieusement ». Ah ben, j'ai décidé de donner gracieusement, comme ton nom indique, à Saul. Et c'est vrai que la grâce nous chamboule, nous surprend chaque fois, parce que c'est la grâce, mais elle touche les personnes qu'on ne croirait jamais. Et on a du mal à réfléchir toujours selon la grâce, on réfléchit autrement. Et donc Ananias est quand même surpris que c'est celui-là. Il veut bien qu'il y ait des nouveaux convertis, et certainement il prie, il évangélise, il est un témoin fidèle lui-même. Mais quand on lui dit que aujourd'hui l'Éternel va donner gracieusement à Saul, alors là, c'est wow, c'est pas comme ça normalement. Mais comme son nom indique, l'Éternel fait grâce. Et c'est un encouragement pour tous. Si l'Éternel a gracié un homme tel que Saul, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il peut faire grâce à tous. Combien d'entre nous ont déjà, dans notre vie passée, notre vie de péché, notre esclavage dont parlait Bruno, combien d'entre nous est allé aussi loin que de persécuter, de battre des chrétiens? Eh bien, Dieu a sauvé un homme comme ça. Il peut encore nous porter, nous sauver, nous aimer, nous gracier. Que Dieu vous bénisse, priant en son nom.